constitue pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Gratfouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Hello, bienvenue sur Radio Canus si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour ce Canu Info du jeudi 19 octobre. Du côté du micro du studio, nous avons Laurent.
Bonsoir Delphine.
Et Laurent, es-tu corporate?
Non.
Tu n'es pas corporate, alors aujourd'hui...
Même aujourd'hui.
Oui, surtout aujourd'hui, tu n'es pas corporate et pourtant tu as tort. Aujourd'hui, c'était donc une nouvelle journée de manifestation partout en France et donc à Lyon. Petit rendez-vous, mais quand même présent, il faut le dire. Mais c'est vrai que c'est pas les beaux jours quand même, il faut le dire. Par contre, il y avait du bleu, oui. Du bleu marine, hein, parfois barré de jaune, casqué, équipé, bateau sur l'eau, hélico dans le ciel, des barrages filtrants, des fouilles, il y avait du bleu marine de partout. On a cru vraiment qu'ils allaient être plus nombreux que nous, dites donc dans la rue, incroyable, oui. À Lyon, ça continue, il y a toujours cette répression bien présente et pourtant il y a toujours des manifestants et des manifestantes dans la rue qui continuent à être là et qui essayent d'y croire encore qu'on va faire tomber Macron de son piédestal. Mais en tout cas, aujourd'hui, il fallait être corporate. Et oui, c'est un mot que moi, personnellement, j'adore et que je pourrais répéter à l'infini. Corporate, corporate, corporate. Et pourquoi il fallait être corporate? Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée J'aime ma boîte. On vous avait déjà parlé de cette merveilleuse journée 15e édition pour cette année 2017. Manifestation lancée par Madame Sophie de Menton, que nous adhérons aussi dans cette émission, présidente d'Éthique, entreprise à taille humaine, indépendante et de croissance, n'est-ce pas, avec des mots pareils. On ne peut être que corporate. C'était donc la fête des entreprises aujourd'hui, avec un slogan pour cette édition 2017, fais bouger ta boîte. Donc des repas thématiques, des concours photos, des séances de massage, des rendez-vous. C'était merveilleux et comme le disait le Figaro.fr, ou plutôt l'écrivait, l'effet Macron donne des ailes à l'opération J'aime ma boîte, et oui.
C'est le président des entreprises alors.
Corporate, ouais. Je vous dis. Alors moi je suis allée sur le site de J'aime ma boîte, en revenant de la manifestation, j'aurais pas dû parce que j'ai eu une remontée de billes assez puissante, je dois dire. Bon, faut dire que je suis peut-être pas assez corporate moi-même. J'ai trouvé donc cette magnifique affiche pour cette édition 2017, des mecs et une femme, quand même, il la fallait sur l'affiche. Les mecs en costume cravate, alors parfois avec la cravate autour de la tête, parce que quand même on est dans une journée de fête et de célébration. Donc on avait l'impression qu'il y avait une bande de coincés qui semblait à la fois perchés, bien dopés aux produits hallucinogènes, euphorisants en tout cas. On ne sait pas s'il y a des produits légaux, illégaux qu'ils ont pris, ces gens, mais en tout cas, ils avaient l'air heureux. J'ai été voir le kit de communication aussi. Alors malheureusement, on y trouve... pour pouvoir communiquer des dessins de Gabs et de Faujour. Faujour, je vous rappelle qu'il a fait des unes pour le ciné mensuel, donc on se demande bien pourquoi ils vont prêter leurs dessins autant Gabs que
vendre,
lui.
Vendre.
Oui.
Leurs dessins.
Pardon, vendre leurs dessins, excuse-moi, c'était ma langue a fourché. À cette journée-là, bon, Gabs, il est connu pour faire ses livres de blagues sur le travail, donc bon, on n'est pas trop surpris, évidemment, qu'il s'associe à ce genre de journée. Et puis, cette journée, elle a été basée sur un sondage de valeur, puisqu'il a été réalisé auprès de 1060 salariés d'entreprises de 0 à 1000 salariés. Et... bien, un questionnaire auto-administré. Donc, je voulais lire toute la portée importante, universelle, de ce sondage. On apprend donc que 69% des sondés déclarent aimer leur société, leur entreprise. Évidemment, avec ce genre de sondage, Ça ne peut aller que dans le sens de Sophie, hein, notre amie Sophie de Menton, bien évidemment. Moi, je voudrais juste rappeler Sophie de Menton, parce qu'on est aussi en train de se rappeler un petit peu des choses ces derniers temps. En 2011, c'était en décembre, c'était un 13 décembre, elle avait déclaré « Je peux vous assurer que les multinationales, elles font beaucoup pour les enfants, alors que les PME, elles, elles les exploitent. De toute façon, c'est ça le ruisseau. » Donc, elle était en train de soutenir le travail des enfants, puisqu'elle disait qu'avec l'UNICEF, ben, c'était mieux qu'ils aillent travailler, parce qu'au moins comme ça, ils ramenaient à bouffer pour la famille. En Asie, par exemple, ils ont rien, donc il vaut mieux qu'ils travaillent que plutôt d'avoir rien. Donc ça, c'était l'avis de Madame Sophie de Menton à l'époque. Et puis, surtout, parce qu'on est en plein dedans, c'était en 2015, en avril, le 16, sur le réseau social, excusez-moi, en 140 signes, elle a écrit « 100% des femmes seraient harcelées quotidiennement. Ne pas tout confondre, être sifflée dans la rue est plutôt sympa. »
Ah.
On applaudit donc Madame Sophie de Menton. Voilà, voilà.
Ouais,
oui. Il faut savoir toujours ressortir les petites erreurs de communication de certains et de certaines. En tout cas, nous, on n'est pas très corporate dans cette émission, mais moi, j'ai trouvé des gens qui le sont.
Alors, on est corporate avec Radio Canut, quand même.
Oui, mais enfin, tu sais, le terme
mais
corporate,
c'est pas une entreprise.
Il a été inventé par le marketing de l'entreprise. Mais j'ai trouvé une entreprise où les salariés sont très corporate. C'est au TCL. Alors, tu vas me dire, non, ils sont pas corporate. Ils sont corporatistes. Puisqu'au lieu de faire grève aujourd'hui avec nous,
ils font grève demain.
Demain. Voilà. Alors,
coup,
merci aux syndicats qui, là, ont décidé de faire bande à part. Mais bon, on avait déjà eu les routiers qui avaient fait leurs petites affaires. Ils ont obtenu à peu près ce qu'ils voulaient. Donc, ils se sont retirés des mouvements de grève. On ne risque pas d'atteindre la grève générale avec tout ça. Mais en même temps, moi, je voudrais dire aux salariés des TCL, mais pourquoi donc faire grève puisque toute la presse lyonnaise annonce peu de perturbations.
Demain. Ouais.
Pour demain. Il paraît qu'ils voulaient faire la grève pendant au moins 3 semaines. Moi, j'attends la grève de 3 semaines. On va encore avoir un truc.
C'est pas 3 mois?
Ah, bah, peut-être 3 mois,
excuse-moi,
ou 3 ans. Mais j'en sais rien, mais en tout cas, bon, déjà, j'attends 3 jours.
Ouais.
Moi, je suis pour les grèves. Je soutiens toujours les travailleurs et les travailleuses qui sont en difficulté avec le patronat. Mais là, quand même, ça fait mal au cœur de voir ce corporatisme sur une journée de grève, comme ça, hop, elle a déclenché que le lendemain. Parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas trop de soucis. Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des grévistes, quand même. Hein, mais c'est quand même se moquer du monde. Et arrêtons d'être corporatistes. Soyons tous et toutes ensemble dans la lutte contre M. Macron et tous les autres. Et dans la lutte contre le corporate. Alors, ce soir, on va vous parler plein de choses. Je commencerai par revenir sur le vieux fantasme des profiteurs et du patronat, c'est-à-dire contrôler les chômeurs et les chômeuses. Nous parlons avec Laurent du glyphosate, puisqu'il y a le retour du fils de la vengeance. Nous reviendrons sur l'UNESCO et cette bataille politique pour savoir qui c'est qui a gagné. Et donc, vous le savez, c'est Madame Azoulay.
Ah, surprise.
Ah. Et oui, si tu veux, c'est ça, les batailles à la Dallas. Nous reviendrons avec Laurent sur les nationalismes et les fachos en Europe, qui sont malheureusement très présents. Je vous parlerai d'une pièce de théâtre qui s'appelle Laïka au théâtre de la Croix-Rousse. Nous parlerons des pauvres, nous parlerons de ce qu'on trouve dans les médias lyonnais, et en particulier cette semaine dans le Petit Bulletin. Vous allez voir, c'est sympa, les dérives sectaires. Et puis nous parlerons énergie et environnement pour terminer. Mais alors, pour commencer, évidemment, on va commencer sur cette journée de mobilisation et on va revenir sur ce qui s'est passé dans les déclarations de cette semaine et dans la bouche de nos puissants. Nous savons donc que M. Macron veut conditionner les prestations, les indemnités chômage à l'effort engagé pour trouver du travail. Il veut mettre du contrôle. On sait que Monsieur Christophe Castaner a déclaré lundi sur BFM TV « La liberté, ce n'est pas de se dire que je vais toucher les allocations chômage pour partir 2 ans en vacances. » Évidemment, les chômeurs, c'est bien connu, partent en vacances tout le temps. Et puis, évidemment, on a le grand patron des patrons, Monsieur Pierre Gattaz, que nous adorons autant que Madame Sophie de Menton, a parlé mardi d'un contrôle journalier. Alors, je ne suis pas la seule à m'être demandé c'était quoi un contrôle journalier pour les chômeurs et les chômeuses. D'autres lui ont posé la question, des journalistes professionnels. Alors il a répondu journalier, hebdomadaire ou mensuel. C'est un truc qu'il faut débattre. Ces mots. Donc on n'en saura pas bien plus. Ce qu'on sait, c'est que M. Gattaz estime, comme d'habitude, qu'il y a des gens qui profitent du système. Et on sait aussi que M. Gattaz est contre l'intégration des démissionnaires et des indépendants dans le régime d'assurance chômage. Faut pas pousser, quand même. Et puis bon, s'il y a trop de dettes, il faudrait arrêter. On va pas y aller. Alors, les chômeurs ne sont-ils pas assez contrôlés? Il paraît que non. Il paraît que les chômeurs et les chômeuses n'ont jamais délais de contrôle qu'il faudrait faire comme en Grande-Bretagne où les chômeurs et les chômeuses doivent aller dans leur pôle emploi local toutes les deux semaines avec la preuve qu'ils ont bien, ils et elles, bien envoyé des documents, bien cherché activement du travail. J'ai même lu qu'il faudrait prendre l'exemple des chômeurs allemands qui doivent aussi se présenter dans leur pôle emploi locaux pour prouver qu'ils recherchent du travail, sinon ils auraient des baisses de leurs allocations. Alors on rappellera que depuis 2008 il y a un contrôle accru en France, depuis 2013 il y a des expérimentations, j'y mets des guillemets, qui sont lancées dans un certain nombre de régions pour mieux contrôler. Alors on rappellera quand même que Pôle emploi c'est une fusion des ACEDIC hein, et de la NPE, et que grâce à cette fusion, puis depuis il s'est passé plein de choses, il y a une perte hein, des salariés quand même à Pôle emploi. Donc on se demande déjà comment des conseillers qui n'arrivent pas à accueillir aujourd'hui suffisamment correctement des chômeurs et des chômeuses vont pouvoir contrôler au mieux ces chômeurs et ces chômeuses. Alors d'après les équipes de M. Macron, il va falloir engager des gens qui ne seraient que sur le contrôle. Hein, déjà, bonjour, bienvenue dans le monde merveilleux du travail. Vous allez donc devenir des contrôleurs, sanctionneurs, hein, puisqu'évidemment, quand on va contrôler et que ça n'ira pas, nous irons donc sanctionner le demandeur ou la demandeuse d'emploi. Donc, en fait, en France, on continue à contrôler. Il y a des gens... Alors, ça dépend vraiment de votre conseiller, de votre conseillère. Ça dépend de votre pôle emploi et ça dépend de votre secteur d'activité, bien évidemment. Il y a des tas de témoignages où les gens reçoivent constamment des mails ou des SMS leur demandant si jamais ils ont bien effectué des démarches. Sachez, par exemple, vous pouvez recevoir des mails tout bêtes. Vous n'avez pas mis votre CV en ligne à jour. Alors, parfois, ça fait 4 mois que vous n'avez pas travaillé, mais en même temps, effectivement, vous ne l'avez pas mis en jour depuis 4 mois. Alors, ce qu'il faut faire, c'est aller changer une virgule. Comme ça, on vous lâche l'affaire, vous voyez. On en est réduit quand même à ça, hein, du côté des chômeurs et des chômeuses. On nous dit tout le temps que il faudrait contrôler parce qu'ils vont pas chercher l'emploi. Bon, on rappellera que si nous, les chômeurs et les chômeuses, les travailleurs et les travailleuses, on prend beaucoup de CDD, c'est parce que le patronat nous propose aussi beaucoup de CDD. Donc, on se retrouve ensuite à devoir se remettre au chômage. Et ça, c'est peut-être à Monsieur Gattaz et à ses amis de changer la donne et de proposer autre chose que de l'emploi précaire. Et puis on rappellera aussi que Pôle emploi n'a pas le monopole de l'annonce, c'est-à-dire qu'on voudrait nous dire vous n'avez pas répondu aux annonces de Pôle emploi. Malheureusement, il y a tout un tas de secteurs, hein, pour Pôle emploi, je dis malheureusement, dans lequel les patrons ne vont pas sur Pôle emploi poser leurs annonces. Il y a d'autres sites, d'autres plateformes sur Internet, par exemple, sur lesquels les patrons préfèrent aller parce que c'est plus simple, parce que ça les arrange ou parce que, tout simplement, ça va être plus professionnel, plus corporatiste, et que donc ben ils vont pas passer par Pôle emploi. Il faut savoir qu'à Pôle emploi, il y a des gens qui sont chargés d'aller auprès des entreprises pour que les entreprises mettent leur annonce sur Pôle emploi. Donc on est dans une espèce de course comme ça à l'annonce qui coûte très cher à Pôle emploi, hein, parce que quand même aller dire à des gens mettez votre annonce sur Pôle emploi, c'est quand même un truc de fou. Donc on enlève des gens qui seraient là pour conseiller les demandeurs et les demandeuses d'emploi à les acter plutôt vers l'entreprise. Et puis donc on veut nous obliger à prendre un boulot, hein, n'importe lequel paraît-il. Bon, alors déjà, il y a des secteurs où il n'y a pas beaucoup de travail, donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on nous donne des boulots dans d'autres secteurs d'activité. Alors par exemple, si vous regardez un peu sur Pôle emploi, vous avez tout un tas de demandes pour faire vendeur en boulangerie franchisée. Vous savez, tous ces trucs-là qui pullulent dans les villes. Bon, vous allez me dire, il n'y a pas besoin forcément d'avoir beaucoup de diplômes pour faire ce travail-là, mais enfin, il y a quand même des gens qui ont peut-être des CAP, force de vente ou des choses comme ça, qui peuvent plutôt être dans la pratique. Et puis surtout, ça veut dire que si on nous envoie tous et toutes là-dessus, c'est-à-dire qu'on estime que ces boulots, c'est de la merde. Ben non, excusez-moi. Moi, c'est pas parce qu'on fait de la vente qu'on fait des boulots de merde, sauf qu'on évidemment on est mal, on est dans des conditions de travail pourries, là ça devient un boulot de merde. Mais on va devoir nous obliger à faire un travail qu'on veut pas faire, donc du coup on va certainement insulter le client. Alors Laurent, tu me faisais remarquer que oui, mais du coup si tu prends pas ce travail, tu vas perdre tes indemnités. Donc du coup ça veut dire que c'est bien, l'idée c'est quand même d'exploser tout le code du travail pour que en fait nous les travailleurs et les travailleuses on n'ait pas le choix et que finalement on soit obligé d'aller faire de l'esclavage, d'être esclaves, excusez-moi, parce que sinon on n'aura pas de pognon, donc l'idée c'est aussi de couper les indemnités, c'est ce que veut faire Macron, c'est-à-dire réduire la période d'indemnisation, parce qu'à un moment, comme ça, on ira faire n'importe quel taf. Alors on entend aussi que les chômeurs donc partent en vacances tout le temps, hein. C'est sûr que quand on lit que, simplement, il faudrait rappeler qu'il y a que la moitié des chômeurs qui sont indemnisés en France, il faut savoir qu'il y a plein de chômeurs qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi, puisque quand vous n'avez pas d'indemnisation, pas d'allocation qui suivent, à quoi bon vous emmerder tous les mois à vous déclarer quand même, il faut le dire. Donc il y a plein de demandeurs d'emploi qui aujourd'hui n'ont pas d'allocation, d'indemnité, donc c'est sûr qu'ils partent en vacances à peu près tous les deux mois, hein. C'est très très fréquent quand même, donc ça c'est aussi une belle propagande. Et puis qu'il y a beaucoup de fraudeurs aussi, paraît-il. Alors on rappellera que les fraudeurs l'heure, c'est d'abord les entreprises qui ne payent pas leurs cotisations. Pour les fraudeurs à Pôle emploi, on en rediscutera un petit peu plus tard. Donc les chômeurs sont des gens qui se tournent les pouces, qui ne cherchent pas de travail et qui partent en vacances tout le temps parce qu'en fait, ils ont beaucoup d'indemnités. Ça, c'est donc le profil type du chômeur et de la chômeuse. On rappellera que c'est en moyenne 1 200 euros, 1 300 euros, hein, les allocations chômage. Donc, on part pas en vacances non plus tout le temps avec. Et puis, la dernière des choses que j'aimerais rappeler, c'est que toutes les enquêtes montrent que les chômeurs sont des travailleurs en très très mauvaise santé. Parce que c'est stressant d'être au chômage, c'est stressant de passer son temps à chercher du travail, qu'il y a un taux de suicide qui est bien plus élevé que chez les travailleurs et les travailleuses, qu'il y a un risque de mortalité qui est plus élevé, qu'il y a des maladies cardiovasculaires, le cancer, des pathologies qui sont plus élevées que chez les autres travailleurs et travailleuses et même que chez les travailleurs et travailleuses précaires. Donc non, ce n'est pas cool d'être au chômage, ce n'est pas cool, il faut encore le dire et le dire, mais l'idée, rappelons-le, c'est quand même de nous monter les uns et les unes et les autres, les uns contre les autres, hein. Comme ça on oubliera d'aller affronter ce qu'il faut, c'est-à-dire le patronat.
Alors maintenant, le nouvel épisode sur le glyphosate. Vous savez, vous rappelez en tout cas, que la Commission européenne va proposer de renouveler la licence du glyphosate pour 10 ans, en suivant vraisemblablement l'avis de l'Agence européenne de sécurité des aliments, qui a classé cet herbicide très célèbre comme non cancérigène. Alors, de leur côté, aujourd'hui, les membres de la Commission Environnement et Santé du Parlement européen ont voté une résolution qui demande à cet exécutif européen justement de retirer sa proposition en faveur du renouvellement de la licence du glyphosate et appelant à une disparition progressive de la substance dans les 3 prochaines années. Donc cette résolution a été adoptée à une large majorité, hein, 39 pour, 9 contre et 10 abstentions. Elle va être soumise au vote en séance plénière du Parlement mardi à Strasbourg, la veille du fameux scrutin au sein duquel le comité d'experts chargé du dossier, en vue d'autoriser ou pas pour 10 ans supplémentaires l'utilisation de l'herbicide dangereux à la santé. La résolution du Parlement qui a été votée n'est pas contraignante, malheureusement, c'est juste symbolique pour mettre la pression sur la Commission européenne et surtout les États membres, puisque chaque État va voter. Normalement, la France, à travers la voix de Nicolas Hulot, devrait voter contre ce renouvellement de licence pour le glyphosate. Mais la résolution qui a été votée là, elle va plus loin, elle propose, elle revient déjà sur la controverse scientifique, en rappelant que le CIRC, le Centre International de Recherche sur le Cancer, qui est membre de l'Organisation Mondiale de la Santé, a classé quand même cancérogène probable en 2015 ce produit du glyphosate, contrairement à l'Agence de Sécurité des Aliments européenne, l'EFSA, et contrairement à l'ECHA, qui est l'agence qui gère les produits chimiques. Enfin, l'ECHA, ils sont là pour faire la propagande des produits chimiques. Et surtout, elle rappelle que mais il n'y a pas que ça qui pourrait permettre de faire pression, puisque il faut savoir qu'il y a pas mal de procès en cours aux États-Unis de gens qui ont porté plainte contre Monsanto. On rappelle, c'est l'inventeur hein, du glyphosate qu'il a popularisé à travers son fameux herbicide Roundup. Donc là aussi, eux, ils accusent le Roundup d'avoir provoqué des cancers. Voilà, on rappelle, et d'ailleurs cette résolution le dit, qu'il y a eu les Monsanto Papers, hein, qui ont démontré la propagande pollueur en chef américain sur le glyphosate, sur les manipulations qu'il a pu faire, sur le lobbying que fait l'entreprise. Donc voilà, grosso modo, les eurodéputés demandent à la Commission d'adopter des mesures nécessaires pour éliminer le glyphosate du territoire de l'Union européenne avant le 15 décembre 2020. Donc c'est plutôt pas mal. Et ils demandent aussi qu'on donne de l'argent à l'EFSA et à l'ECHA, donc ces deux agences, celle de sécurité des aliments et celle des produits chimiques, pour qu'ils aient des chercheurs indépendants et pour faire des études. Parce qu'on rappelle que les études qui sortent, les études indépendantes démontrent que le produit est cancérogène. Les études pas indépendantes, c'est-à-dire dont les membres ont travaillé ou travaillent avec l'industrie chimique ou l'industrie des produits phytosanitaires, eux, ils démontrent l'inverse. Donc, il y a un vrai problème de conflit d'intérêts. Donc, ils demandent cet arrêt-là. Donc, voilà, c'est ce que vient de voter le Parlement. Même si c'est symbolique, c'est non contraignant, ça met une pression supplémentaire sur les pays européens Tout ça avant le vote en début de semaine prochaine et on en reparlera. J'espère qu'ils ne vont pas renouveler la licence du glyphosate.
Et bien on est nombreux et nombreuses à l'espérer. Alors on parlait de l'UNESCO la semaine dernière, on y revient rapidement.
Puisque j'avais annoncé à tort que celui qui aurait dû gagner était
Ahmad
issu
bin
du Qatar.
Abdulaziz Al-Kawari.
Et c'était tous les pronostics le donnaient gagnant.
Il faut dire qu'au premier tour, les 58 membres ont voté à 19 voix pour lui. Derrière, il y avait Madame Azoulay à 13 voix. Ensuite, il y avait la candidate égyptienne, la candidate libanaise. Il y avait un candidat chinois, un candidat du Vietnam, un candidat d'Azerbaïdjan. Enfin, voilà.
Et c'est l'Égypte qui a foutu le bordel.
Alors, pas que. Mais au deuxième tour, s'affrontaient Monsieur Al-Kawari et Madame Azoulay. Et effectivement, ça s'est transformé dans une bataille géopolitique, il faut le dire quand même. Pour l'UNESCO, c'est quand même pas très chouette. Vendredi, donc dernier tour, et c'est effectivement l'Égypte, l'Arabie Saoudite, Bahreïn et Yémen qui ont mis les deux pieds dedans. Et puis les Émirats Arabes Unis. Je vous rappelle que en ce moment, il y a une crise avec le Qatar.
Voilà, ils sont en guerre contre le Qatar.
En guerre.
Crise
diplomatique, si on va appeler ça. Ouais. Sérieuse. Très sérieuse.
Et du coup, ils n'ont pas voté pour la qualité ou la non-qualité du candidat ou de la candidate, mais juste pour des questions de politique.
À deux voix près, hein, c'est donc Madame Azoulay qui a remporté ce poste. Je vais aller très vite, il n'y a pas grand-chose à en dire de plus, c'est juste que c'est une victoire politique, diplomatique de Madame Azoulay, alors que l'UNESCO est censée être dépolitisée, je vais y arriver. C'est pas gagné, en plus c'est une organisation qui a plus de thunes, donc on souhaite bien du courage à Madame Azoulay pour arriver à gérer tout ça. Quoi.
Ouais.
Voilà, c'était juste pour revenir là-dessus.
Alors on va parler un peu d'Europe, des nationalismes et des fachos qui triomphent. Donc c'est des nouvelles tristes hein, qu'on va vous annoncer tout de suite. On va commencer par la République tchèque, où les discours radicaux, racistes, xénophobes contre les réfugiés se sont imposés dans le débat politique. Et pourquoi tout ça? Parce qu'on est à la veille des législatives qui ont lieu en Tchéquie en fin de semaine, c'est-à-dire demain, vendredi et samedi. Alors, on a par exemple le clip de campagne d'un groupe, un parti d'extrême droite qui s'appelle le Bloc contre l'islamisation, on voit des migrants qui portent des burqas et des hijabs, qui s'en prennent, qui attaquent une retraitée tchèque, lui donnant des coups de pied. Alors la retraitée, elle a un déambulateur, hein, forcément, pour montrer qu'elle est fatiguée, qu'elle est vieille et tout. Il la laisse étaler par terre et il se rue sur un bâtiment où c'est écrit « prestations sociales ». Donc une belle mise en scène de facho. Et voilà, et puis la conclusion c'est « est-ce que il faut donner de l'argent à nos enfants et aux retraités ou aux musulmans et aux africains ?» Voilà. Alors c'est symptomatique, vous me direz c'est un parti d'extrême droite. Sauf que c'est une des 31 formations politiques qui se présentent à ces législatives. Mais que tout le monde leur emboîte le pas idéologiquement. C'est vraiment très très impressionnant que le seul quasiment sujet de cette campagne électorale en Tchéquie soit les migrants. Donc c'est le truc. Alors faut quand même rappeler que la Tchéquie n'accueille aucun migrant. Alors, ils auraient dû en accueillir 1600 à la demande de l'Union Européenne il y a 2 ans quand ils ont fait la répartition là. Ils en ont accueilli 12. Donc c'est un pays qui a accueilli 12 migrants. Pour 12 migrants, pour des millions d'habitants, toutes les parties développent des propos et des arguments racistes pour s'opposer à l'arrivée de ces musulmans qui arrivent et qui vont égorger tout le monde, d'après ce qu'on entend bien évidemment, ce qui semble pas tout à fait juste. Alors faut savoir ils sont opposés parce que le président de la République tchèque est déjà ouvertement anti-migrants. Donc c'est mal parti. Voilà. Pour l'instant, elle respecte rien, cette République tchèque, hein, sur l'accueil des migrants. On le voit, 12 sur 1600, c'est quand même pas terrible. Même la France, qui est quand même largement ridicule, a fait plus. Et ça marche, ces politiques, puisqu'il y a un sondage, alors vous allez me dire, un sondage, c'est jamais très fiable, mais bon, il y a quand même un sondage qui a posé la question aux Tchèques, et 60% des Tchèques sont hostiles aux migrants, et grosso modo, il n'y en a que 3% qui sont favorables. Donc ça fait, grosso modo, 97% de FAF actifs ou passifs, ou de racistes actifs ou passifs. Ça fait très très peur. Vraisemblablement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la dénazéification de la Tchéquie a pas marché.
Parce que dans l'histoire de la Tchéquie, la droite est restée très très forte, enfin, depuis surtout la démocratisation de la fin des années 80, et l'extrême droite aussi. Donc c'est quand même ultra ultra inquiétant, cette présence du discours identitaire, du discours raciste et du discours xénophobe. Alors vous me direz, là j'ai parlé un peu des fachos, allons voir les autres. Alors on a un autre parti qui s'appelle Liberté et Démocratie Directe. Putain, c'est classe, la démocratie directe, on est pour, là. Ouais, sauf quand on met liberté avant, c'est mauvais signe. Et effectivement, c'est le parti d'un homme d'affaires qui est né à Tokyo, qui s'appelle Tomio Okumura, qui lui aussi est contre tous les musulmans. Et donc c'est un vrai parti anti-migrant aussi. Et le pire, c'est que son parti, donc Liberté et Démocratie Directe, ça se dit SPD en tchèque, il est crédité de 7,3% dans les sondages. Et il faut 5% pour entrer au Parlement.
C'est beaucoup, hein.
Ouais. Donc c'est parti pour que ce faf-là, il rentre au Parlement. Alors il y en a un autre aussi, il y a Andrej Babis. Souvent il est appelé le Trump tchèque. Alors je sais pas si c'est positif ou négatif. Souvent c'est quand même, pour nous maintenant, c'est plutôt négatif, Trump tchèque. Lui, il a un mouvement populiste aussi, qui s'appelle ANO. Et c'est lui qui est pressenti comme vainqueur. Lui aussi, anti-migrant. Il est pressenti à 30,9%. Donc, c'est quand même mal parti. Alors, on pourrait se dire, mais attendez, il y a des raisons peut-être pour cette peur-là, pour cette haine contre tous les gens qui sont un peu pas tchèques, hein, grosso modo, pour résumer. Ben, si on regarde le taux de chômage en Tchéquie, 3,8% en septembre dernier, c'est le plus bas depuis 1998. Il y a une croissance de 3,6% pour l'année en cours. Des trucs qui feraient rêver Emmanuel Macron, qui aurait pu faire rêver Hollande. Donc il n'y a pas de raison économique à tout ça. Il n'y a pas de raison économique, il y a juste un fond de racisme instrumentalisé par tous les partis politiques. Alors, je recite une phrase du président Miloš Zeman pour donner un petit peu l'idée de l'état d'esprit des Tchèques et de leurs représentants. Il a dit « La vague migratoire, c'est une invasion organisée. » Il a dit « Les musulmans sont impossibles à intégrer. » Alors, il faut quand même redire, ça concerne d'ailleurs tout le monde, parce qu'on a des militants d'extrême-gauche qui font les mêmes amalgames, c'est que tous les migrants ne sont pas des Arabes et que tous les Arabes ne sont pas musulmans. Hein. Bah, enfin, faut rappeler, il y a même des Arabes chrétiens, c'est horrible, hein, de le dire pour eux, ils l'avoueront jamais, pour eux, un migrant, c'est un Arabe et c'est un musulman. Donc voilà, c'est assez triste de voir ça. Alors, vous me direz, il y a quand même des partis un peu de gauche, peut-être pas de gauche, mais il y a de la social-démocratie, le parti SSD. Non, c'est SSD, du premier ministre sortant, qui doit s'appeler Bohuslav Sobotka. Donc lui devrait quand même faire à peu près 13% d'intention de vote. Bon, lui aussi, il a dit qu'il fallait arrêter la migration illégale. Bon, ils en ont 12 légales, migration illégale, je ne sais pas s'ils en ont vraiment. Enfin voilà. Et reste le parti de droite tchèque traditionnel, l'ODS. Bon, lui, c'est pareil, ils y vont de leurs propos anti-immigration en disant il faut taper sur les pays qui laissent rentrer les méchants migrants dans l'espace Schengen. Bon, bref, grosso modo, on a l'impression que quasi tous les prétendants à cette élection législative en Tchéquie sont racistes. Ça semble quand même très très mal parti. Du coup, en réfléchissant, ben, le racisme va forcément gagner dans l'élection de demain et d'après-demain. Et ça fait juste un pays de plus qui bascule avec ses idées d'extrême droite. Et la transition est toute venue, malheureusement, puisqu'on avait parlé, j'avais fait une petite brève en parlant de l'Autriche qui votait, bah ça y est, l'Autriche a voté. Et forcément, le FPO, l'ancien parti de Jörg Haider, parti d'extrême droite autrichien, est arrivé troisième. Et il va jouer l'arbitre. Puisque ils ont fait 26%, les conservateurs de Sébastien Kurz, là tout le monde a beaucoup parlé de lui parce qu'il est très jeune, 31 ans. Enfin, on peut être très jeune et déjà facho, hein, puisque il fait 31,5% et que vraisemblablement il va s'allier avec l'extrême droite. Ben oui, avec le FPO et qui est arrivé troisième, le deuxième étant le Christian Kern qui est social-démocrate. Et du coup, l'extrême droite, avec son leader Heinz Christian Strache, si je ne me trompe pas dans la prononciation, 48 ans, qui est beaucoup moins jeune, lui. Il commence à mettre la pression. Il a dit, de toute façon, moi, je suis du parti de la coalition, que si on a un ministère important, notamment le ministère de l'Intérieur. Bah oui, celui qui permet de taper sur les méchants immigrés, qui est une des diatribes traditionnelles de l'extrême droite dans le monde, d'ailleurs. Mais donc là, en Autriche aussi. Donc voilà, on aura plus d'infos demain, puisque c'est demain que Sébastien Kurz, donc le jeune dirigeant conservateur, c'est-à-dire de droite, va être officiellement chargé par le président Alexander Van der Bellen de former un nouveau gouvernement et d'engager donc des pourparlers pour former une coalition. Il est obligé de former une coalition, il n'a pas de majorité. Hein. C'est pas comme chez nous, le système Itriche, où quand tu arrives en tête, quel que soit finalement ton score, t'es majoritaire parce qu'il y a un calcul qui rend majoritaire le vainqueur. Là, on est dans des proportionnels traditionnels et du coup, lui, il a que 31% des voix et pour gouverner, il faut 50% des voix pour faire passer les lois. Donc, il est obligé de s'allier. Alors, on pourrait espérer qu'il s'allie aux sociodémocrates, ce qui serait quand même moins pire, mais vraisemblablement c'est pas ce qui est en train de se faire et c'est pas ce qui est en train de se négocier à voir dans les prochains jours qui viennent ou les prochains mois, parce qu'ils peuvent rester longtemps à négocier. Alors on se dit, est-ce qu'il y a eu de la réaction en Autriche, à Vienne notamment, la capitale? Ah oui, il y a eu une tentative hier de manifestation contre l'alliance possible de la droite et de l'extrême droite. Ils étaient quelques dizaines. Il va y avoir d'autres mobilisations, mais ils sont très déprimés quand même, les manifestants. Alors, on rappelle que quand Jörg Haider est arrivé à la, dans une coalition aussi, dans les années 2000, au tout début, en 2000 d'ailleurs, ils étaient arrivés à faire sortir 250 000 Autrichiens dans la rue. Bon, c'est pas la majorité du pays, mais pour un pays aussi installé à droite, alors c'est un peu comme la Tchéquie, alors c'est encore pire puisqu'ils n'ont pas eu d'occupation communiste, hein. Donc eux, depuis 45, il n'y a eu aucune dénazification quasiment, puisque les partis de droite sont toujours très très présents en Autriche et se sont régulièrement alliés avec l'extrême droite. Donc les idées nauséabondes des années 40 n'ont pas du tout disparu en Autriche malheureusement. Et aujourd'hui, on a le résultat de ces idées nauséabondes. Donc voilà, bon, ils ont espoir de faire d'autres manifs, mais a priori, ils sont quand même très très, très désespérés, très déprimés, le peu de militants antiracistes, antifascistes qu'il peut y avoir en Autriche. Puis pour terminer avec les nationalistes et les fachos, la petite info sur l'Espagne, puisqu'aujourd'hui, il y avait une espèce d'ultimatum posé par Madrid et son premier ministre Mariano Rajoy face à la Catalogne. Il devait répondre avant 10h ce matin sur... Vous avez déclaré l'indépendance ou pas? Et du coup, il y a une petite réponse du dirigeant nationaliste catalan qui dit que l'indépendance sera déclarée si l'État décide de déclencher l'article 155. Alors, comme les autres, ils attendent que l'indépendance soit déclarée pour déclencher l'article 155 de la Constitution qui supprime l'autonomie de la Catalogne, ils jouent un jeu de cons, hein, ça on se rend bien compte. Vous allez me dire, on a en face des nationalistes catalans avec quelques groupes d'extrême gauche avec et de l'autre côté, des autoritaires espagnols. Hein, donc, c'est quand même un combat de coq, un combat de nationalisme, un combat d'idées de droite, un combat d'autoritarisme. Bon, ce qu'on sait, c'est que ça va pas aller dans le bon sens puisque personne ne veut discuter, personne ne veut trouver de terrain d'entente, et que Mariano Rajoy a annoncé qu'il convoquait un conseil des ministres extraordinaire samedi prochain, et vraisemblablement ils vont mettre en œuvre l'article 155 de la Constitution espagnole, c'est-à-dire virer l'autonomie de la Catalogne, récupérer la Catalogne, et sûrement peut-être derrière redéclencher des élections, ce qui pourrait changer la donne, les élections, parce que soit les nationalistes refont un gros score, ce qui est pas sûr, parce qu'ils sont pas majoritaires au Parlement catalan. C'est cette espèce de groupe d'extrême gauche traître, hein, qui fait basculer les choses, hein, du nationalisme de gauche, comme on a avec Mélenchon en France. C'est ces gens-là, en fait, qui font basculer et qui font que les nationalistes peuvent faire passer des choses. Sinon, les nationalistes ne sont pas majoritaires au Parlement. C'est quand même triste de voir ces alliances, ces compromissions, ces collaborations. Voilà, c'était ma rubrique, les fachos sont là, ils nous font peur.
Écoute, on va parler un petit peu de théâtre et je vais vous parler d'une pièce qui est bien dans son temps, dans son époque en ce moment. Une pièce qui est jouée actuellement au Théâtre de la Croix-Rousse, donc sur le plateau dans le 4e arrondissement jusqu'à samedi soir. Cette pièce, elle s'appelle Laïka, c'est un texte de Celestini avec David Murgia et Maurice Blanchy sur scène, avec une voix off de Yolande Moreau, qu'on a toujours plaisir à entendre avec cette voix si particulière.
C'est une voix off enregistrée.
Tout à fait. Tout tout à fait. Et donc, on avait déjà eu hein, ce duo Célestine et Murgia avec Discours à la Nation. Et là, donc, on a ce texte très, très fort, un texte direct, âpre. C'est cynique et c'est drôle à la fois. Célestine, je vous rappelle, c'est un auteur, c'est un poète italien. Il a l'habitude de regarder le monde à travers, finalement, le bout de son quartier. Il donne la parole aux plus modestes, aux oubliés. Nous avons dans cette pièce David Murgia qui joue cet homme un peu un nouveau Jésus qui va raconter à Pierre son colocataire ce qu'ils discutent en bas au bistrot hein, donc ils nous parlent des clochards sur le parking du supermarché de la vieille, de la dame qui perd la boule, de la prostituée, des manutentionnaires, des sans-papiers, des exploités, des grévistes matraqués, gazés par la police. Alors on avait déjà vu David Murgia avec le Raoul Collectif. Là, il est seul en jeu, il est accompagné par Maurice Blanchy à l'accordéon et David Murgia se fait raconteur d'histoire avec une verve absolument incroyable, il faut bien le dire. Et cet homme va nous raconter donc la vie en bas de chez lui. C'est ce qu'il raconte à Pierre, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu et ce qui surtout cette histoire de comptoir hein, au bar en bas, il est accoudé, il interpelle les gens, il boit des péquettes, hein, c'est un alcool de genièvre. Et puis il s'interroge souvent avec humour. Hein. On y croise Stéphane Hawking et Dieu avec un débat sur le Big Bang et la création. C'est des histoires simples, humaines, que ce comédien nous fait vivre sans mièvrerie, mais avec beaucoup de tendresse. Et David Murgia, il est absolument prodigieux parce que c'est un texte qui est dit avec un débat, avec un débit, excusez-moi, d'une rapidité absolument incroyable. Et pourtant, on entend tout, on comprend tout, et c'est haletant. Il a pour accessoire simplement son manteau un peu trop grand, son t-shirt rouge, et puis des caisses de bouteilles et un rideau rouge. Et on a Maurice Blanchy qui est là avec son accordéon. Et c'est ça qui est beau, c'est que cet accordéoniste va ponctuer les mots et le jeu de David Murgia. Et c'est ça que ça en fait un espèce de duo aussi et de dialogue sur scène. Et on passe de l'ironie à la farce. C'est aussi une satire politique de notre environnement. Si ça s'appelle Laïka, vous allez me dire, et pourquoi ça s'appelle Laïka? Laïka, je vous rappelle, c'est une chienne.
Qui était la première à aller dans l'espace.
Oui, c'était en 1957 et c'est les Soviétiques. Qui l'ont envoyé dans l'espace. Et ce qu'il faut se souvenir, c'est que Laïka, c'est une chienne de rue. C'est pas une chienne des bourgeois et des beaux quartiers. Et que, c'est pour ça qu'elle a été enlevée là-haut, parce qu'elle allait supporter ce qui lui est arrivé. Et comme le dit ce personnage, pour quelques heures, elle fut la créature vivante la plus proche de Dieu dans le ciel. C'est donc une fable ironique, où ce pauvre Jésus est impuissant, il se voit offrir des coups à boire pour raconter au comptoir ce qui l'entoure, ce qu'il voit. C'est pas un homme qui va changer le monde, hein. Il a l'air plutôt désabusé, mais en même temps, il est tranquille. Et puis, surtout, ce texte de Célestini, il nous parle de gens qui ne sont pas des victimes. C'est pas non plus des super-héros, des super-militants, mais c'est pas non plus des victimes, ils sont pas stigmatisés. Cette prostituée, elle est là, elle est forte, elle a son discours, son histoire. La vieille dame, le clochard sur le parking du supermarché qu'il faut aller aider, les manutentionnaires, et puis les grévistes qui évidemment se font taper par la police parce qu'on s'y attend. Et c'est une écriture qui est construite, qui est adaptée hein, de l'italien, qui a été traduit par Patrick Baby. Mais on sent que ça, y a eu une place à l'adaptation. Il faut se souvenir que David Murgia, il est belge, donc on a aussi cet accent qui rebondit sur scène, et donc il y a une musicalité de la langue c'est très très vif. David Murgia, il s'arrête jamais, on a l'impression qu'il va s'écorcher, qu'il va écorcher les mots, qu'il va se rater, qu'il va oublier quelque chose, et non, il y va, il nous raconte, hein, et il danse en même temps avec ses bras, avec ses mains, à l'italienne, et tout ça, ça va scander son propos avec à la fois beaucoup de douceur, mais en même temps avec une grande force dans le propos, hein, pour dénoncer aussi ce qui nous entoure, la manière dont on est aliéné par une société de consommation, par la dureté de la vie, par la police, par la répression, et on a l'accordéon qui est là, qui ponctue, qui souligne, et ça amène une émotion vraiment supplémentaire, complémentaire à ce discours. C'est un vrai dialogue qui se passe sur scène. Et puis du coup, on repense à ce qui nous entoure. Hein, on va, moi, il y a un discours sur les manutentionnaires qui portent des caisses. Moi, ça m'a fait penser à ce reportage sur ces manutentionnaires à Lidl. Hein, c'est pas parce que la caisse elle est petite que ce qu'il y a dedans c'est pas le plus lourd. On pense à ceux et à celles qui sont en la rue, à ceux et à celles qui sont rejetés, discriminés. On pense à la manif qui nous attend le lendemain. Et on pense à tout ça. Et c'est un spectacle absolument magnifique, qui est vivifiant et pourtant qui parle de choses qui sont de la dureté de la vie. Et pourtant, vraiment, c'est très très beau. Hidalgo. Voilà, après des hommes en devenir d'Emmanuel Mérieux la semaine dernière, on a encore une très belle rencontre entre un texte et des comédiens au théâtre de la Croix-Rousse qui vraiment année après année continuent à nous proposer de très très belles choses. Il reste quelques places, moi vraiment je vous invite à aller voir Laïka avec David Murgia et Maurice Blanchy sur scène, c'est absolument magnifique et c'est au théâtre de la Croix-Rousse.
Alors on va retourner sur le social et on va parler des pauvres et on va juste redonner quelques chiffres pour rappeler qui sont les pauvres en France et pas forcément que des chômeurs qui partent en vacances, parce que ça, on n'en connaît pas beaucoup. Alors même si ça, des chômeurs partent en vacances, bien évidemment, parce qu'ils ont le droit aussi d'aller se reposer après avoir galéré dans la vie. Donc on va faire un point sur qui est pauvre, comment on est pauvre, enfin on va redonner du chiffre un petit peu. Alors déjà sur la répartition par âge, alors il y a 1,8 million de personnes pauvres en France qui sont des enfants ou des adolescents. Alors bien évidemment, c'est pas une pauvreté directe, c'est une pauvreté indirecte, puisque c'est la pauvreté de leurs parents. Puisque s'ils sont pauvres, c'est parce que leurs parents ont des revenus insuffisants. Mais c'est quand même important de rappeler que les enfants et les adolescents représentent une grosse tranche d'âge victime de la pauvreté. Et c'est une double peine un peu, parce que ils sont victimes en grandissant de la pauvreté et ils ont des chances de basculer eux-mêmes dans la pauvreté quand ils seront adultes. Malheureusement, la reproduction sociale est là. Ensuite, les jeunes de 20 à 27 ans, ils représentent 17% des chômeurs. Enfin, des pauvres, je veux dire, pas des chômeurs, des pauvres. Alors c'est souvent des jeunes peu qualifiés, enfin on parlera après de la qualification. Et puis une autre partie des pauvres, ce sont des retraités donc au-dessus de 60 ans, qui représentent un pauvre sur 10, hein, qui est au-dessus de 60 ans, notamment des femmes seules qui n'ont pas beaucoup travaillé parce qu'elles étaient femmes au foyer et elles se retrouvent seules parce que leur mari est mort et la pension qu'elles touchent de réversion est pas suffisante. Voilà, il y a ça. Et alors le pire pour ces retraités, parce que les autres, ils ont tous espoir que leur situation s'améliore, pour ces retraités pauvres, hein, un dixième des pauvres en France, il n'y a aucun espoir, puisqu'ils ne vont pas d'un seul coup avoir des revenus qui rentrent, et les retraites n'augmentant pas, il y a très peu de choses, enfin voilà, ils n'ont pas de bonnes perspectives. Alors d'autres, je veux juste dire, la pauvreté, elle est raisonnée par rapport au revenu médian. Donc le revenu médian, c'est le salaire pour lequel la moitié de la population est au-dessus, l'autre moitié est en dessous. Ça partage pile en deux la population. Grosso modo, hein, pour une personne seule, c'est 846 euros par mois le revenu médian. Et on estime que la pauvreté, c'est quand on est inférieur, on a 50% de son revenu. Vous me direz déjà 846 euros par mois, c'est déjà pauvre. Mais en fait, bon, ça définit pas la pauvreté. Le seuil de pauvreté, là, il est défini donc à 50% du revenu médian. Ce qui donne, oui, non, j'ai dit une connerie. Le revenu médian, c'est 1600 et quelques euros.
C'est ça, j'allais te reprendre, mais
voilà. La pauvreté, pour quelqu'un de seul, c'est 846 euros. Pour un couple sans enfants, c'est 1269 euros. Et pour un couple avec deux enfants, c'est un peu moins de 1800 euros. Voilà. Alors, grosso modo, la pauvreté se vit d'abord en famille. Puisque les deux tiers, hein, donc c'est beaucoup, les deux tiers, 66%. Des pauvres vivent en famille, c'est-à-dire soit avec des enfants, 40% sont en couple, soit donc en couple homme, enfin en couple homme femme ou femme femme ou homme homme mais avec des enfants, et 25% vivent dans une famille monoparentale. Voilà. Les familles monoparentales sont importantes dans la pauvreté, puisque c'est un facteur aggravant de la pauvreté d'avoir un enfant seul à charge. Elles sont d'ailleurs surreprésentées dans les proportions. Sur le sexe, eh ben c'est plutôt pas mal, parce qu'on a quasi égalité entre les hommes et les femmes. Donc la pauvreté crée de l'égalité, c'est triste. Donc il y a 52% de femmes et 48% d'hommes. La différence, elle vient à la monoparentalité, puisque comme c'est un facteur aggravant et qu'il y a plus de femmes qui ont leurs enfants, un enfant issu d'une famille monoparentale, c'est relativement logique vu la biologie de l'être humain et des mammifères en général. Elles sont légèrement supérieures, mais voilà, il y a une quasi-égalité quand même dans le malheur, dans la souffrance et dans la pauvreté, on peut le dire. Ensuite, sur le niveau d'études, il faut savoir que les deux tiers des pauvres ont comme niveau maximum d'études le CAP. Et 10% n'ont pas de diplôme du tout. Ça fait grosso modo 77,6% des pauvres qui ont au maximum le CAP et sinon rien. Donc la grosse discrimination, elle est finalement sur le diplôme. Après, c'est un cercle vicieux, vous êtes enfant de pauvre, vous avez moins d'accès à l'étude, etc. Mais effectivement, la discrimination scolaire, elle entraîne ensuite une discrimination sociale et elle crée cette pauvreté. Alors ça va même plus loin, si on regarde, dans les bacs plus 2, il n'y a que 3,7% de pauvres. Hein, alors que dans les CAP et moins de CAP, 77% de pauvres. Ça rigole pas quand même. Hein. Et alors si on va sur encore au-dessus de bac plus 5, c'est encore plus faible le chiffre. Alors, conséquence de tout ça, grosso modo, les pauvres, hein, ils se situent chez les ouvriers ou les employés, hein, puisque maintenant il y a moins d'ouvriers et il y a beaucoup plus d'employés. C'est là où ça se situe. Ensuite, qu'est-ce qui crée de la pauvreté ? Eh ben, c'est le manque d'emploi. On a dit ils n'ont pas de diplôme, c'est le manque d'emploi. Effectivement, dans les pauvres, il y a 70% d'inactifs ou de chômeurs. Alors inactifs, c'est une partie des personnes qui ne sont plus considérées comme chômeurs parce qu'elles ont abandonné de s'inscrire à Pôle emploi. Et c'est notamment le cas de beaucoup de femmes, hein, qui deviennent femmes au foyer par défaut et qui ne sont pas plus inscrites à Pôle emploi, qui sont donc plus classées dans les chômeurs, mais sont classées dans les inactifs. Donc dans ces chômeurs et inactifs, 70%. Enfin, dans les 70% sont pauvres. Ça fait quand même un beau taux de pauvreté chez ces gens-là. Grosso modo, le travail rend riche. Alors, ça rend pas riche, mais ça rend moins pauvre. Ou ça permet de sortir de la pauvreté. En tout cas, pour pas mal. Mais, justement, si c'est 70%, ça veut dire qu'il reste 30% de travailleurs pauvres. Enfin, de travailleurs chez qui on a chez les pauvres, il y a qui travaillent quand même. Ça fait 700 000 salariés en France, en fait, qui sont sous le seuil de pauvreté. Alors, pour des raisons de temps partiel, avec des bas salaires, hein, parce que si vous gagnez 100 000 euros par mois, même si vous bossez à temps partiel, vous pouvez vous en sortir. Sauf que les temps partiels, c'est pas pour les patrons, hein, c'est pour ceux qui ont des boulots pourris et mal payés. Parce que souvent, ça va ensemble. Soit parce qu'ils ont travaillé qu'une partie de l'année. Donc, ce que donnent les chiffres, hein, c'est grosso modo, la pauvreté, c'est l'absence d'emploi ou la mauvaise qualité d'emploi. Et c'est là on voit que les ordonnances que Macron met en place, ces ordonnances qui vont dégrader la qualité de l'emploi, elles vont avoir une conséquence quasi immédiate dès qu'elles seront vraiment actives, c'est qu'elles vont augmenter la mauvaise qualité d'emploi, donc elles vont augmenter les salariés qui vont être des salariés pauvres et qui vont tomber sous le seuil de pauvreté. Et puis pour terminer dans les chiffres sur la pauvreté, il y a une deuxième discrimination, une double peine sur des gens qui ont connu la double peine, qui va revenir parce que Colomb et Macron, ils ont reparlé de la double peine pour les personnes étrangères, alors qu'on s'en était quasi débarrassé. Donc il y a une double peine, c'est effectivement les immigrés ou les personnes issues de l'immigration, mais là on va parler des immigrés surtout. Alors c'est compliqué d'avoir les chiffres, hein, parce qu'en France, on n'a pas de statistiques aussi précises que ça sur les immigrés, mais grosso modo, ils sont beaucoup plus touchés parce qu'il y aurait dans les immigrés 37,6% d'immigrés sous le seuil de pauvreté. Illégal ou légal, hein. Alors, on fait pas de distinction, on regarde juste la qualité de la personne par rapport au statut nécessaire en France pour être reconnu comme français. Voilà, alors eux, ils ont une double couche, parce qu'en fait, c'est pas en tant qu'immigrés, alors bien sûr, ils sont victimes du racisme, ça c'est une des premières raisons, mais souvent ils sont jeunes, peu qualifiés, et tout ça, ça fait qu'ils cumulent tout ce qu'on a dit depuis le début sur la qualification un peu de cette pauvreté en France. Ils ont un peu tout sur eux. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour resituer ces pauvres et ces chômeurs qui partent en vacances tout le temps là, ce qu'ils représentent en France et qui ils sont. Voilà, ce sont des chiffres officiels, bien évidemment, et sérieux.
On rappellera juste que les chômeurs et les chômeuses ont le droit à des vacances, il faut juste se déclarer sur le site Pôle emploi, à 35 jours par an, c'est la loi. Donc ce ne sont pas des profiteurs et des profiteuses. Alors maintenant on va parler un petit peu de presse locale et je vous propose de vous pencher, si vous l'avez vers vous, sur votre petit bulletin, ça te fait sourire, de la semaine. Moi vous savez, je suis une curieuse dans la vie, donc je regarde un petit peu tout et puis j'aime bien regarder les publicités dans les magazines et souvent ça m'énerve. Et donc en page 14 de votre petit bulletin, que vous allez donc ouvrir chez vous,
Donc le petit bulletin, c'est ce journal gratuit qu'on trouve dans plein de lieux culturels, qu'on trouve même à Radio Canu, et où il y a les annonces de spectacles, il y a le cinéma, il y a tout ça.
Il y a un peu de rédactionnel, tout ça. Ils ont un site internet, ils font de la pub, tout ça. Et donc en page 14, dans la deuxième partie de ce journal, nous avons sur la gauche une belle publicité pour une journée conférence, Maître de sagesse de la Terre et d'ailleurs. Vous avez le truc sous les yeux. Et donc c'est organisé par Partage International. Alors tout de suite, je vais vous dire. Moi, j'ai contacté le petit bulletin d'abord en tant que lectrice en leur disant par mail, dites donc, c'est quoi cette pub? Ça a l'air un peu sectaire. Je vous renvoie un rapport de l'Assemblée nationale en 1995 et je leur demande, est-ce que c'est du soutien? Est-ce que c'est une erreur de votre part? Ou est-ce que c'est une recherche de profit à tout prix?
Le truc que tu as dit, le nom, dont j'ai...
Je vais y venir. Partage
c'est
International.
C'est une vraie secte, du coup.
Eh ben, c'est dans...
dans le rapport de la Mivilu de l'époque.
C'est cité dans les mouvements sectaires. Donc, je leur pose la question. Et puis, je m'étais dit, je t'en cause, tu trouves ça chelou parce que je vais vous lire un petit truc. Louche, excusez-moi. Et je me dis, non, mais en fait, quand ils vont me répondre, je vais leur dire que je suis à Radio Canu, que je vais en parler dans mon émission et que qu'ils me disent, qu'ils se lâchent, qu'ils me racontent la vérité et puis comme ça, je pourrais faire un retour. Ils m'ont jamais répondu. J'ai envoyé ce mail hier, hein, dès que je l'ai vu, je me suis dit, tant pis pour vous, écoutez, on va donc vous taper dessus. Parce que ça nous a énervé. Donc, nous ne sommes pas seuls, c'est ce que nous explique le texte. Il existe un lien entre les maîtres de sagesse de notre planète et les visiteurs de l'espace.
Alors, quand tu m'as lu ça, oui. Moi j'ai cru que c'était les Raéliens.
Ben non.
Parce que ça fait exactement ça, c'est qu'on serait issus des extraterrestres, tout ça. Et non, c'est pas les Raéliens, il y en a d'autres.
Alors, le gourou de départ, il s'appelle Paul Lay, puisqu'il est mort en 2016, Benjamin Graham, c'est un truc qui est issu de Share International, un machin canadien. Donc Benjamin Graham, il nous a fait tout plein de prédictions. Hein. Et donc la menace première, c'est le monde va s'écrouler, tout va très mal. Mais il y a l'arrivée du Messie, qui en fait chez eux s'appelle Maitreya, qui va revenir. Alors il faut savoir qu'en 1977, Maitreya est parti de l'Himalaya, qu'a priori maintenant il habiterait à Londres, hein, pour ce que j'ai bien lu quand même tout ce qu'il y avait sur leur site. J'ai été lire le dossier de 12 pages destiné à la presse. Et donc il y a peu de gens qui le connaissent. Il se cache en attendant le bon retour. Il y a nos chefs qui sont au courant, même le Vatican est au courant. Et il y a des médias qui sont au courant puisqu'il est apparu à la télé, mais il s'est pas dévoilé dans une interview. En tout cas, il y aura un grand jour où il y aura une étoile dans le ciel qui va donc annoncer la présence de Maitreya. Et en fait, cette étoile, vous l'avez peut-être vue déjà, qui brillait. Et en fait, c'est un gigantesque vaisseau spatial. Ah. Il paraît qu'il y en a 4 autour de la Terre.
Ah, c'est pas l'étoile du berger qu'on voit la nuit, c'est un vaisseau en fait.
Il y en a 4. Hein. Il paraît que donc il y a même des preuves, hein, puisque depuis décembre 2008, on trouve de nombreux reportages, je cite, concernant l'étoile sur YouTube et dans des journaux télévisés. Hein. Il paraît qu'ils ont recensé Share International, tout ça dans
bizarrement
des
la NASA n'a jamais communiqué sur un vaisseau spatial.
Alors, on nous parle aussi d'apparition miraculeuse d'une main dans le bousin, ça c'était
le miracle.
Dossier de presse, c'était en 2001, donc c'est un mélange entre ésotérisme, bouddhisme, christianisme, écologie et paix dans le monde. Ambiance New Age, vous voyez un peu le plan.
Le truc, c'est qu'ils ont été classés dans les mouvements sectaires, alors que des illuminés nous disent qu'il y a des extraterrestres qui attendent le Messie, c'est le principe de toutes les religions, hein, d'attendre le Messie comme ça, parce qu'on ne peut pas se sauver soi-même. En fait, c'est ça, hein, ça déresponsabilise. On ne peut pas se sauver soi-même, donc il faut attendre que quelqu'un vienne nous sauver.
Ouais.
Mais le problème, c'est qu'ils étaient classés dans le rapport sur les sectes. Donc pourquoi le petit bulletin accepte qu'un groupe considéré comme sectaire fasse de la pub?
Alors,
c'est quand même difficile à croire.
Moi, je dirais que c'est pour le pognon.
Oui, non, ben ça, on sait bien.
Ou alors, c'est pour le soutien.
Non, mais a priori, ah oui, on peut pas savoir. Il pourrait être. C'est vrai que le petit bulletin se trouve est gangréné par les mouvements sectaires. Alors, ça serait une première annoncée à Radio Canu, parce qu'on l'avait jamais vu. Par contre, ils sont gangrénés par le capitalisme.
Donc, c'est sûr. On se rappellera que de plus en plus maintenant, on a du rédactionnel et la partie commerciale qui sont des engins séparés. C'est pour ça que je vais bientôt écrire à Science et Vie pour demander des explications de pourquoi dans ce mensuel de vulgarisation scientifique dans leur dernier numéro, on a une pub pour de l'homéopathie.
Alors qu'ils ont fait depuis 20 ans, des tonnes d'articles où ils démontrent que l'homéopathie marche pas.
Donc là, on sent bien qu'il y a la rupture entre les deux et ça m'énerve. Donc je vais leur écrire, mais il n'y a pas que moi, et faites-le. Donc ce qui est intéressant, c'est que donc ce machin propose des méditations de transmission. C'est aussi le vocabulaire qui est intéressant hein, dans les mouvements un peu chelous et sectaires. Je vous laisse aller lire parce que c'est quand même très très intéressant. Voilà, il y a les maîtres de la sagesse, donc c'est ceux qui ont été là avant nous et qui portent justement la méditation de transmission. Et donc on attend le jour où Maitreya va revenir, va donc illuminer le ciel. Et donc, il y aura un truc lumineux et très coloré qui va nous apparaître à tous et à toutes de partout. Et normalement, il y aura la paix dans le monde, puisque, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ils ont la preuve qu'il y a, donc, parce qu'ils ont invité déjà Artsen, hein, qui est, je me souviens plus s'il est néerlandais, je crois, ou danois. Excusez-moi, là, j'ai un trou de mémoire d'un seul coup. C'est un spécialiste des ovnis. Et lui, il a la preuve, il a recueilli la preuve, les preuves, il a plein de choses pour montrer qu'en fait, il y a des extraterrestres sur d'autres planètes, donc il y a des planètes habitées, et qu'en fait, ces gens qui sont sur les planètes habitées se soucient de notre humanité.
Ils sont sympas quand même.
Et donc,
hein,
vont venir nous, sonner, nous sauver. T'étais pas en des Iraliens et des trucs comme ça. Voilà. Donc, c'est juste pour dire qu'un, vigilant sur toutes ces choses qu'on trouve, même dans le petit bulletin, vous voyez, il y a des publicités qui sont trompeuses, et nous, on continuera à dénoncer tout ça parce que ça nous agace et que c'est pas normal.
Ouais. On va terminer avec une petite rubrique énergie et environnement, et on va commencer par la patronne de Engie, qui a déclaré, qui est en négociation en ce moment avec le gouvernement de Belge pour, au sujet du parc nucléaire que Engie possède en Belgique. Ils ont 6 centrales nucléaires, il y en a qui sont connues, hein, Tihange et Doel, qui sont des centrales en wind, un peu comme les centrales françaises, enfin en wind, sont très vieille, donc elle fatigue. Ils essayent de faire prolonger. Et ce qui est drôle sur tout ça, elle a dit, de toute façon, c'est le choix le plus rationnel de prolonger la vie des centrales nucléaires. En fait, ils sont emmerdés, Engie, elle le redit d'ailleurs, il y a plusieurs articles qui le redisent, c'est que là, ils espèrent prolonger et ils espèrent surtout scinder la filiale belge et mettre tout d'un côté le nucléaire pour le revendre. Et le problème, c'est que personne n'en veut. Donc ils attendent quoi? Que l'État belge dise « Ok, on prolonge de vie des centrales jusqu'à 50 ans ». Et là, tout de suite, ils scindent le truc, ils vendent, ils se débarrassent du nucléaire, et Engie dit « Stop, je veux plus de nucléaire ». On sait qu'ils veulent plus de nucléaire, Engie. On sait qu'ils veulent en sortir. Sauf qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser de ces centrales, parce que c'est quand ils les ont récupérées, quand ils ont acheté Electrabel. Donc voilà, c'était juste une petite histoire drôle de « J'ai du nucléaire, mais je sais pas quoi en faire, aidez-moi à m'en débarrasser ». Alors on va revenir sur Nicolas Hulot, qui a fait un truc bien pourri ces derniers jours. Ça concerne les territoires à énergie positive. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est un dispositif qui a été créé par Ségolène Royal à l'époque, on est en 2014, elle était ministre de l'écologie. Et ça permettait aux territoires sélectionnés de bénéficier d'aides financières dans des projets qui visent à réduire la consommation d'énergie, des projets qui visent à développer des ressources d'énergie renouvelable ou des pratiques d'économie circulaire et locale. Donc moins polluante. À l'époque, enfin sur dans l'histoire, il y a eu 500 lauréats avec des financements. Et le problème, c'est que les financements s'élèvent à 700, enfin ils ont besoin de 750 millions d'euros. Or la Caisse des dépôts a reçu de l'argent de l'État, mais seulement 400 millions d'euros. Donc il manque 350 millions d'euros. Et plutôt que de ponctionner de l'argent dans un truc inutile et de les mettre en investissement dans ces projets qui sont tous positifs, qui vont tous dans le bon sens, Nicolas Hulot, il a donné des conseils. Il a dit, vous regardez tous les contrats, s'il manque une virgule, un truc, s'il y a une signature mal faite, vous annulez le machin. Il faut absolument qu'on économise ces 350 millions d'euros. Donc voilà, c'est quand même ridicule comme démarche à l'encontre de quelque chose qui était plutôt positif. On notera que dans le même temps, je vous rappelle que le gouvernement Macron avait confirmé les 5 milliards d'euros de dons de l'État français au nucléaire, c'était à Areva, c'était au début du mois de septembre. Voilà. Alors on va parler un petit peu d'éolien, il nous reste 1 minute 30, avec deux nouvelles. Alors un champ d'éoliennes flottantes vient d'être inauguré en Écosse, donc c'est un champ de 30 mégawatts qui va alimenter 20 000 foyers. Alors c'est une révolution parce que jusqu'à maintenant les éoliennes en mer, elles sont posées sur des mâts, elles sont fixées au sol, donc on peut les mettre que dans des zones où la profondeur est pas trop importante. Et on sait qu'il y a de l'opposition parce qu'il y a quand même des gens qui disent, regardez c'est pas beau une éolienne vue de la mer, vue de la plage. Alors bon, la plage en Bretagne ça se discute, mais bon voilà, c'est pas très beau. Hein. Et là, c'est la solution, parce qu'on les met plus loin, du coup on peut les mettre loin, elles flottent, et elles sont plus visibles, et elles produisent. Elles produisent beaucoup d'ailleurs, parce qu'elles produisent plus que des éoliennes terrestres. Ce projet écossais est important, donc c'est relié au réseau, le but c'est de valider le truc, c'est de développer ça. Vous allez me dire, c'est bien, c'est en Écosse, ils sont en avance, hein, l'Écosse est un des deux pays européens, avec la Grande-Bretagne en général, un des deux pays européens qui a beaucoup développé les éoliennes sur l'eau. dans les mers. La France essaye aussi, puisque la France vient de lancer sa première expérience d'éolienne flottante. Alors elle est fabriquée, elle n'est pas encore mise à l'eau et dans son parc définitif, c'est un peu mou la France des fois, mais ça va dans le bon sens et ça permettrait justement de lutter contre les oppositions. On sait qu'il y a des parcs d'éoliennes en mer prévus, mais il y a beaucoup d'opposition des groupes anti-éoliens qui sont essentiellement portés par des gens issus du lobby nucléaire, hein, bizarrement, mais voilà, qui s'oppose à ces éoliennes qui apparaîtraient, qui seraient soi-disant moches. Et du coup, on les mettrait plus loin, on les verrait plus, ce qui serait pas mal. Donc voilà, c'est un truc positif qui est en train d'apparaître, ces éoliennes flottantes, j'en parle, parce qu'il y a deux projets, le projet écossais qui est bien avancé, et le projet français qui avance tout doucement. Et ce sera la dernière info de ce Canu Info, un micro-agenda.
Micro-micro, pour dire que c'est samedi, il y a une journée autour de la thématique « Quelle structuration syndicale pour quel syndicat ?» Quel syndicalisme, ça se passe à la Plume Noire, 8 rue Diderot sur les pentes de la Croix-Rousse, c'est organisé par la commission syndicale de la CGA. Il y a un rendez-vous à 15h avec une permanence autour du syndicalisme, et à 17h il y a une discussion, formation, notre approche du syndicalisme en tant qu'anarchiste. On le disait la semaine dernière et on le répète, continuons à nous unir pour nous former, et on sera plus fort et plus forte, et ben là c'est un moyen.
Ouais, alors comme le camarade est un petit peu embêté avec son ordi qui démarre lentement pour faire la liaison avec Radio Dio, si je me trompe pas, pour diffuser Papillon, juste une petite info, j'ai vu, donc il y a un appel sur les réseaux sociaux, donc c'est un truc pourri, pour aller manifester Place Bellecour, enfin aller faire un rassemblement Place Bellecour à 14h samedi contre les agressions, les viols donc par ces gros machos sur les femmes. Donc c'est appelé sur les réseaux sociaux, c'est bien pourri parce qu'on sait pas qui est derrière tout ça. Le côté positif, c'est que ça permet de sortir du hashtag balance ton porc ou du hashtag MeToo. Là c'est plutôt le MeToo qui appelle a priori à ce rassemblement à Lyon, donc Place Bellecour. Et donc voilà, c'est peut-être l'occasion de sortir de ces trucs théoriques sur internet, sur un écran, pour enfin que les femmes soient visibles et qu'elles disent non à ces agressions, non à ces viols qui sont quand même très généralisés. Très répandu, généralisé peut-être pas, mais malheureusement très répandu. Et voilà, je crois que j'ai pu meubler.
On se retrouve la semaine prochaine.
Voilà, et demain pour le prochain Canu Info.
Ciao, ciao.
Le rôle de l'administration pénitentiaire, c'est d'écraser.